Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Une émission consacrée, je le rappelle, je l'apprends, à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore, musicale, probable ou moins probable, les petites images qui bougent depuis 1895. Ou dans ces eaux-là à peu près. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer la carrière d'un de ces solides acteurs américains, plus ou moins de second plan, sans lequel le cinéma américain des années 70-80 essentiellement, mais il a quand même poursuivi sa carrière depuis, sans lequel donc ce cinéma ne serait pas ce qu'il est. En l'espèce, le dénommé Gene Hackman, né Gene Hackman aussi bien, le 30 janvier 1931 à San Bernardino, en Californie. Un jeune garçon qui connaît un certain nombre de problèmes familiaux, ce qui fait qu'à l'âge un peu précoce, à mon sens, de 16 ans, soit en 1947, vous l'avez bien calculé, à peine 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s'engage dans la marine. Et dans la marine, on voyage beaucoup. Donc le susdit Gene Hackman part en Chine, au Japon, à Hawaï, etc. Puis après avoir quitté l'armée, où manifestement il n'avait pas choisi de faire carrière, eh bien, il commence à la radio et puis repart en Californie pour suivre des cours d'art dramatique. Bref, il débute au théâtre et puis à la télévision, avant de connaître un premier grand succès au théâtre en 1963 dans une pièce d'Irwin Shaw, de laquelle je dois dire j'ignore tout, qui s'appelle Children for Their Games. La pièce est un four, mais son rôle est remarqué et dès 1964, on le voit dans son premier rôle au cinéma, aux côtés de Gene Seberg et de Warren Beatty, le second futur superstar, lui aussi du cinéma américain des années 70-80, le film s'appelait L'Élite. Bon, ma foi, il n'a pas laissé beaucoup de marques dans les mémoires cinéphiles. Ce n'est pas le cas, sinon d'un des films suivants, le célébrissime Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, tourné en 1967 avec Faye Dunaway et Warren Beatty à nouveau. Alors, un film qui raconte, on s'en souvient, l'épopée sanglante de Clyde Barrow et de Bonnie Parker, je crois, mais j'ai oublié son nom, et dans lequel Gene Hackman joue le frère de Clyde Barrow, donc le frère de Warren Beatty. Ensuite, eh bien, les films s'enchaînent, plus ou moins remarquables, desquels on peut picorer Les Parachutistes arrivent avec Burt Lancaster, pardonnez-moi, que j'aime beaucoup personnellement. On peut remarquer aussi un film de science-fiction de ces années-là, ma foi plutôt mal réussi, Les Naufragés de l'espace. Mais c'est en 1971 que Gene Hackman explose, si l'on veut, véritablement, en tout cas s'épanouit comme acteur, puisqu'il est l'interprète principal du French Connection de William Friedkin, où il interprète un policier pugnace et indomptable, un film qui est resté célèbre pour quelques courses-poursuites à couper le souffle, duquel j'aurais bien voulu vous proposer un extrait musical, mais je n'ai pas trouvé, alors on va passer à autre chose rapidement. Bref, en tout cas, French Connection, c'est l'occasion pour Gene Hackman eh bien, de recevoir tout simplement le meilleur Oscar, ou plutôt l'Oscar du meilleur acteur, pour son interprétation en 1972. Autant dire que maintenant, l'homme est lancé, mais avant d'évoquer plus avant sa carrière, j'ai été assez bavard. On va s'écouter, et j'en dirai quelques mots, mais après seulement, un extrait de la bande originale d'un film tourné cette même année 72, où il reçoit l'Oscar, qui n'a rien à voir avec French Connection. Ça s'appelle L'Aventure du Poséidon, The Poseidon Adventure, in English. La musique de John Williams, bien connu pour ses collaborations avec Steven Spielberg. Je vous en dis un peu plus après, vous êtes bien dans 24 notes secondes.
Thank you.
La puissante partition de John Williams pour l'aventure du Poséidon, un film de Ronald Nim tourné en 1973 et dans lequel Gene Hackman, notre héros du jour, jouait un révérend. L'aventure du Poséidon, un film qui s'inscrit dans une vague de films catastrophes qui furent nombreux sur les écrans dans ces années 70 et parmi lesquels on peut retenir Airport de George Seaton, sauf erreur de ma part, musique d'Alfred Newman, Le tremblement de terre de Mark Robson, musique de John Williams, mais je n'en jurerai pas, La tour infernale de John Guillermin, musique de John Williams, ça c'est sûr, etc., etc. Bien d'autres films conçus, comme souvent les films américains, pour lutter contre l'influence de la télévision qui, à l'époque, ne pouvait pas proposer des spectacles aussi grandioses en l'espèce dans l'aventure du Poséidon. Eh bien, tout simplement, l'histoire d'un paquebot de luxe qui se renverse à l'envers, victime d'une vague qu'on appellerait maintenant un tsunami. Amis et quelques survivants vont essayer de regagner le haut qui est en fait le bas, vous l'avez compris. D'où des effets d'ailleurs relativement intéressants et au bout d'un moment une attitude un peu schizophrénique puisqu'on voit les gens monter mais monter vers le bas. Enfin bref, vous m'avez suivi quelque part de ce côté-là, en tout cas un film qui connut un succès commercial absolument colossal, même si ce n'est certainement pas le meilleur rôle de Gene Hackman et puis qui connut évidemment une suite quelques années plus tard, mais à ma connaissance, pas de Gene Hackman dans la suite. On préférera retenir cinématographiquement, sinon musicalement, les deux chefs-d'œuvre auxquels Gene Hackman participera dans les deux années suivantes. En 1973, il est dans L'épouvantail aux côtés de Al Pacino, Scarecrow in English, un film de Jerry Schatzberg qui est une merveille absolue sur l'errance de deux personnages, un film qui, sauf erreur de ma part, obtint la Palme d'or au Festival de Cannes cette année-là. C'était ô combien mérité. Même chose, sauf erreur de ma part, décidément. Je manque de petites fiches en 1974 pour le Conversation secrète de Francis Ford Coppola. Un film, je dirais, prémonitoire, visionnaire, puisque une quarantaine d'années plus tard, eh bien, dans ce monde complètement espionné où toutes nos conversations et autres sont écoutées, eh bien oui, dans ce monde, on y est, tout simplement. En 1974, ce n'était peut-être pas tout à fait le cas, mais, Conversation secrète, aux côtés, évidemment, du Parrain, d'Apocalypse Now et de quelques autres films pour lesquels Francis Ford Coppola est beaucoup plus connu, eh bien, Conversation secrète est un chef-d'œuvre absolu. Même chose, décidément, les grandes années pour Gene Hackman, les années suivantes, peut-être qu'après, je m'arrêterai, mais il faut reconnaître qu'en 1975 aussi, il enchaîna trois films qui reste dans les mémoires, La Fugue d'Arthur Penn, Night Moves, une sorte d'errance absolument magique dans un genre tout à fait différent, le Frankenstein Junior de Mel Brooks, une évocation des films d'épouvante des années 30, qui est une merveille de drôlerie, d'élégance, qu'on aimerait bien revoir de temps à autre sur les écrans, je suis sûr que ça n'a pas vieilli, en plus c'est en noir et blanc. Et puis La Chevauchée Chauvaise, Bite the Bullet de Richard Brooks, une très grande musique d'Alex North, là encore je ne l'ai pas trouvé, c'est bien dommage. Et puis, puisqu'on avait évoqué les suites à propos de l'aventure du Poséidon, eh bien il fallait bien un French Connection numéro 2, et c'est... cette fois, le fidèle John Frankenheimer, déjà rencontré quelques années auparavant, qui s'y collait. Le tout se passait beaucoup plus à Marseille, si je me souviens bien. Et évidemment, le tout était loin d'avoir la saveur de l'original. Bref, autant dire que les années 70, comme je l'ai esquissé au début de ma présentation, furent pour Gene Hackman de très grandes années, puisqu'il enchaîna, pardonnez-moi, tout à la fois des films avec un succès commercial peut-être relatif, mais qui restent encore dans les mémoires des cinéphiles, comme L'épouvantail, Conversation secrète ou La chevauchée sauvage, et d'autres qui, eux, connurent aussi un très grand succès commercial, même si les rôles du susdit Gene Hackman dans les susdits films ils sont un peu plus improbables, notamment le rôle de Lex Luthor, l'ennemi de Superman, qu'il endosse face à Christopher Reeve en 1978 sous la direction de Richard Donner, et en 1980 dans Superman 2, vous l'auriez deviné, cette fois sous la direction de Richard Lester. J'ajouterai, et après on retourne à la musique, qu'en 1981, Gene Hackman fut de l'aventure du Reds de Warren Beatty, qui appuyait sur le livre plus ou moins autobiographique de John Reed, Ces 10 jours qui ébranlèrent le monde, racontait la révolution russe dans une super production, ma foi, dans les années 80. Même s'était gonflé de consacrer l'argent d'Hollywood à célébrer la révolution de l'Empire du Mal, rappelez-vous. Nous étions encore avant la chute du mur de Berlin, comme tout cela paraît loin, mon Dieu. Nous repassons à la musique et après je vous dirai un mot du film. On va s'écouter un large extrait de la bande originale d'un film de Roger Spottiswood tourné en 1983. Ça s'appelait Under Fire in English et ça s'appelait pareil en français. Les principaux interprètes en étaient Gene Hackman, vous l'aviez deviné, mais à ses côtés, rien moins que Nick Nocte, la regrettée, honte sur moi, la trop rare Joanna Cassidy, Jean-Louis Trintignant, mais oui, qu'allait-il faire là, Ed Harris, bref, une solide distribution et surtout les fidèles de 24 notes secondes vont m'approuver. Une musique de Jerry Goldsmith, certainement l'un de nos favoris pour une de ses plus belles partitions. Alors place à la musique sur Divergence FM. C'est absolument magistral, en tout cas à mon goût, la bande originale, un extrait de la bande originale de L'Under Fire de Roger Spottiswoode et de musique de Jerry Goldsmith avec le grand Pat Metheny, rien moins que le grand Pat Metheny à la guitare, une partition un peu méconnue mais absolument magnifique pour un film qui n'était pas moi, dont je relisais pendant que vous écoutiez un extrait de L'Argument et ma foi... Under Fire se passe quelque part au Nicaragua en 1979, lors de la révolution sandiniste. Et le film eh bien, prenait clairement parti pour les révolutionnaires sandinistes, ce qui, on s'en souviendra peut-être, n'était guère le cas du gouvernement américain de l'époque. L'histoire était tout à fait passionnante, qui voyait Nick Nolte et Jane Ackman, notre héros de ce jour, journaliste finalement, comme souvent dans ce genre d'histoire, prendre fait et cause pour les révolutionnaires et assurer finalement la victoire de la révolution sandiniste, tandis que Jean-Louis Trintignant, susnommé, était lui, forcément un Français, un personnage beaucoup plus trouble apparemment à la solde du gouvernement et de la CIA américaine, précise ma petite fiche, mais CIA américaine, ça a quelque chose d'un pléonasme. En tout cas, oserais-je la nostalgie, eh bien c'était l'époque où Hollywood faisait encore de grands films politiques. Il y eut aussi Le Salvador d'Oliver Stone et quelques autres, des films où on ne craignait pas de s'engager et où il n'y avait pas de super-héros, même si j'aime beaucoup les films de super-héros. Bref, une grande réussite là encore pour Jane Ackman qui continuait décidément dans ces années-là eh bien, d'alterner des films peut-être un peu plus exigeants comme Under Fire et d'autres peut-être un peu moins, en tout cas un peu plus commerciaux puisqu'on le vit notamment dans Air Force Bat 21, je vous laisse tout deviner du titre, et la même année, on le vit aussi dans Une autre femme de Woody Allen, Another Woman. Comme quoi cet homme savait, danser dans des cinémas bien différents. On le vit aussi cette même année 1988 dans le remarqué Mississippi Burning d'Alan Parker, où dans le rôle d'un ex-chéri d'une petite ville du Sud, il eut à nouveau une nomination à l'Oscar. Mais l'Oscar, eh bien, il l'eut à nouveau pour un film de Clint Eastwood tourné en 1992, ce qu'on a coutume d'appeler un western crépusculaire ou un anti-western, Unforgiven in English, impitoyable en français, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. On vous en aurait bien proposé un extrait musical, mais hélas, le temps nous manque. Et on va donc passer très rapidement à un autre film tourné en 1993, un film signé Sidney Pollack, alors dont le rôle principal n'était pas tenu par Jane Ackman, mais bien par le susdit Tom Cruise, mais Jane Ackman s'y taillait la part du lion dans un rôle de méchant dans lequel il excellait. Ça s'appelait La Firme, je l'ai peut-être déjà dit. Je vous en dirai quelques mots s'il me reste un peu de temps après. On va s'en écouter un petit extrait. La bande originale de ce film était signée de Dave Grusin, collaborateur habituel du regretté Sidney Pollack. Et vous êtes toujours dans 24 notes secondes. Thank you. Vous pouvez poser votre martini et dire que je n'ai même pas sur ma petite fiche honte à moi le nom du pianiste qui interprète ce magnifique morceau. Extrait de la bande originale de La Firme, un film de Dave Grusin, d'après un roman, ça y est, j'ai déjà oublié son nom, un roman de John Grisham, voilà, une histoire d'avocat avec Gene Hackman en méchant, Gene Hackman, et nous allons conclure en musique. Évidemment, nous sommes à nouveau en retard en vous proposant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1995, ça s'appelle In English Crimson Tide, en français USS Alabama, et on y voit Denzel Washington et Gene Hackman embarqués dans le même sous-marin et s'opposer virilement, mais ça finit bien évidemment, vous l'auriez deviné. La musique est de Hans Zimmer, quelque chose de tout à fait différent du vrai piano ou autre, quelque chose de très très synthétique, qu'on aime ou pas personnellement, je ne vous dirai rien. Place à la musique, USS Alabama, 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.